Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, je suis Alexandre Colby, votre responsable Forêt Claire. Bienvenue sur votre podcast Défense, celui des jeunes IHEDN. Je suis ravi de vous présenter le tout premier épisode d'une longue série. Vous êtes nombreux, jeunes actifs, étudiants, lycéens, à chercher le moyen de vous investir au profit de la défense nationale. Et il existe, au sein du ministère des Armées, de nombreuses initiatives qui peuvent vous permettre de réaliser cette ambition. Elles sont réunies sous une même administration, la direction du service national et de la jeunesse. Et c'est pourquoi Forêt Claire a infiltré Ballard afin de vous faire découvrir toutes ces initiatives de l'intérieur, avec d'autres jeunes qui témoignent de leur expérience. Classe de défense, SNU, CAGE, à la fin de l'année, vous saurez tout sur les politiques jeunesse de notre armée. Et pour ce tout premier épisode, je suis accompagné d'Audrey Séron, la responsable adjointe de Forêt Claire, et nous sommes accueillis par le ministère des Armées dans le bureau du général de corps d'armée Pierre-Joseph Givre, le directeur de la DSNJ. Bonjour mon général, pourriez-vous vous présenter et nous parler tout d'abord de votre parcours professionnel?
Bonjour, donc je suis le général de corps d'armée Pierre-Joseph Givre. Je suis le directeur du service national et de la jeunesse du ministère des Armées depuis mi-octobre 2023. J'ai un parcours militaire classique, si on peut dire. En tout cas, j'ai commencé ma carrière dans les chasseurs alpins. J'ai commandé le 27e bataillon de chasseurs alpins et j'ai eu la chance aussi de commander la 27e brigade d'infanterie de montagne. Une brigade rassemble des bataillons de chasseurs alpins, un régiment d'artillerie de montagne, un régiment du génie de la Légion étrangère, un régiment de cavalerie. Et puis, en parallèle à cette carrière de commandement, j'ai eu également l'occasion de servir en opération dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak et récemment au Mali pendant un an au sein de la Force des Nations Unies. Hors ces temps de commandement et d'opération, j'ai servi dans plusieurs états-majors parisiens et en province, à l'état-major de l'armée de terre, à l'état-major des armées, où j'ai fait beaucoup de stratégies générales, militaires, travailler sur l'innovation, la transformation numérique. Et puis, au sein de l'armée de terre, je fais du budget. J'étais plume du chef d'état-major de l'armée de terre. C'était le général Cuche à l'époque. J'ai également servi à Paris, chez le gouverneur militaire de Paris, pour l'organisation, entre autres, du 14 juillet, mais également pour la conduite des opérations Vigipirate et puis Sentinelle. Et j'ai également été à Lille, à l'état-major des forces terrestres.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la DSNJ?
Alors, la direction du service national et de la jeunesse, c'est une vieille dame, en fait, qui est l'héritière de la conscription, du service militaire. Et puis, au moment où le service militaire a été suspendu, en 1997, on a conservé cette direction dans l'idée, en fait, de maintenir un lien avec la jeunesse et dans l'idée également d'être prêt si jamais on voulait réinstaurer le service militaire, s'il y avait une nécessité pour la défense nationale de réinstaurer le service militaire ou d'autres formes de service. C'est à ce moment-là qu'a émergé la journée d'appel pour à la défense, puis transformée en journée défense citoyenneté. En 2017, on a rajouté la lettre J pour jeunesse. Donc en fait, cette direction est également, non seulement opère la journée défense citoyenneté, elle opère également la journée défense mémoire dans le cadre de la montée en puissance du service national universel. Mais elle s'occupe également du recensement et également est en charge de l'appel sous les drapeaux, pas simplement le jour de la JDC, puisque les jeunes sont à 17 ans, ils sont appelés d'un jour, mais également s'il y avait besoin de mobiliser. Et en parallèle, c'est nous qui également coordonnons, impulsons, déclinons les politiques interministérielles relatives à la jeunesse au sein du ministère des Armées.
Donc il y avait un réel tournant dès l'instauration de ce J à la fin du DSNJ.
Bon, en tout cas, ça a été, je ne sais pas si on peut dire que c'est un tournant, on a élargi en fait le portefeuille de responsabilité de la direction pour en fait mettre encore plus en avant le rôle du ministère des Armées dans la promotion des politiques vers la jeunesse et notamment, par exemple, la déclinaison de toutes les politiques d'insertion professionnelle ou à travers le service militaire volontaire, on pourra peut-être en revenir, qui est sous mon autorité, sous mes ordres. Et puis, par exemple, dans l'aide aux jeunes en difficulté, à travers, par exemple, les cordées de la réussite.
Un service avec plein d'initiatives, on va en reparler. Mais est-ce que vous pourriez déjà nous donner un petit peu les objectifs actuels, les grandes lignes de la DSNJ, s'il vous plaît?
En 2024, les objectifs sont extrêmement clairs. Le ministère et le ministre lui-même, ainsi que le chef d'état-major des armées, en fait, ils m'ont demandé de revaloriser, de moderniser la journée défense citoyenneté. En fait, l'idée, c'est de sortir d'une approche qui était d'abord « je transmets l'esprit de défense », qui est important, mais nous ne sommes pas les seuls à le faire. L'éducation nationale, à travers l'enseignement moral et civique, est au cœur de cette transmission de l'esprit de défense. Et en 24 heures, c'est assez court pour transmettre autant de valeurs, enfin 24 heures moins, en 7 heures en fait. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de transformer cette rencontre unique d'une classe d'âge de 800 000 jeunes avec la Défense nationale pour rendre cette journée plus séduisante à leur égard, et qu'ils leur apprennent plus de choses sur les métiers de la Défense et sur la réalité concrète de ce ministère. Donc en fait, l'idée, c'est d'être plus attractif, en fait, de séduire les jeunes sur une journée, pas simplement de leur transmettre de manière descendante des informations, on va dire, nature intellectuelle, même si ce sont des valeurs, ou leur parler de politique interministérielle. Voilà, donc on change de portage. Et on veut que ça soit une journée différenciante, en fait, dont les jeunes se souviennent en se disant, voilà, j'ai rencontré les militaires, idéalement, j'ai en plus fait cette journée sur un site militaire. J'ai vu des matériels, j'ai vu des gens, des praticiens des opérations et du combat. Et voilà, et j'ai envie de garder le lien parce que c'était intéressant, original. Voilà l'esprit. Et sur la question des politiques jeunesse, plus largement, c'est le même idée. C'est de créer un lien peut-être encore plus concret, plus durable entre la défense et les jeunes, de manière à ce qu'on puisse transmettre des informations régulièrement aux jeunes. D'informations concernant les métiers que nous proposons, mais également des informations concernant les enjeux de défense, la résilience, et puis qu'eux puissent s'adresser à nous aussi plus facilement, avoir accès à nous plus facilement pour poser des questions, ou se renseigner sur des carrières ou sur tout autre sujet en lien avec la défense nationale.
Donc votre rôle en tant que général, c'est un réel rôle de coordinateur avec tous ces acteurs de l'éducation, avec en lien notamment avec le programme Les Cordées de la Réussite.
Oui, en fait, moi, j'ai le rôle de décliner au sein de la DSNJ la politique voulue par le ministre, c'est très clair, et voulue par le ministre et par le chef d'état-major des armées. Ça, c'est important, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que nous coopérons toutes ces politiques. C'est pas, même si c'est nous qui sommes le maître d'ouvrage de la journée de défense citoyenneté, qui sommes en responsabilité sur le recensement, et qu'ils serions s'il y avait une mobilisation, ma ressource ne permet pas de le faire à la place des armées, des directions et des services. Donc ça, c'est un point important. Mon premier rôle, c'est de décliner les intentions du ministre de manière concrète. Et son intention première, c'est moderniser la JDC. Mon deuxième rôle, c'est de me coordonner avec les chefs d'état-major d'armée de manière à ce que nous convenions ensemble des modalités de la coopération. Et enfin, j'ai un rôle, comme vous l'avez dit, de coordination avec les autres entités ministérielles, et en particulier avec l'éducation nationale.
Donc à retenir un rôle de coordinateur, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu justement sur les différentes initiatives du service de la DSNJ. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu dans les détails des différentes initiatives justement que nous allons voir dans les prochains podcasts?
Oui, alors il y a de multiples initiatives. Sur les questions des politiques jeunesse, j'ai parlé des dispositifs que nous avons déclinés. Donc ça, c'est pas nous qui sommes forcément à l'origine de l'idée. Encore que, hein, il y a beaucoup d'inspiration militaire menant les politiques de jeunesse civile. On a parlé des cordées de la réussite, on a parlé des classes défense. Donc on a une politique très dynamique sur ce sujet. On a parlé des stages et de l'apprentissage. Notre volonté, c'est d'ouvrir encore plus de places pour les jeunes stagiaires et pour les apprentis. Parce que d'expérience, je sais que c'est souvent la croix à la bannière pour un jeune de trouver des stages et l'apprentissage. Mais on sait aussi que le retour sur investissement est toujours excellent. Quand j'étais directeur du centre de doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre, on avait énormément de stagiaires. qui nous assistaient, qui nous aidaient, qui nous complétaient, qui avaient déjà une certaine technicité. Alors eux apprenaient beaucoup à notre contact, mais nous on apprenait également beaucoup parce que c'était la mentalité de cette jeune génération. Et voilà, dans tous ces domaines, nous on a le rôle d'impulsion et aussi de proposition d'idées nouvelles quand on peut en avoir. Et sur le plan purement de la journée défense et sécurité, ben oui, là c'est nous qui la concevons, qui la renouvelons intégralement. Et là, on a monté des groupes de travail, notamment des jeunes HDN qui en font partie, et on attend d'eux qu'ils nous apportent des idées novatrices.
Alors vous nous parlez d'un renouvellement complet de la JDC. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu juste ce qui est à changer, quels sont les problèmes avec ça, est-ce que vous avez des idées sur comment le faire?
Oui, alors moi, le dispositif actuel, voilà, c'est un héritage de l'histoire. Il est, à mon sens, enfin, c'est que tout le monde le voit comme ça. Je ne sais pas si vous avez fait votre journée défense citoyenneté, donc vous allez peut-être me contredire, mais en fait, il est trop descendant. En fait, c'est une approche pédagogique qui est trop traditionnelle, au mauvais sens du terme, en l'occurrence. C'est pas assez innovant et on met pas assez les jeunes au cœur de cette journée. Donc l'ambition, c'est de changer, de pas être descendant, mais que le jeune soit beaucoup plus acteur de la journée, qu'en permanence il soit au contact d'animateurs, qu'il puisse créer un lien d'abord humain. Il ne peut pas y avoir de bonne transmission s'il n'y a pas de confiance et de connexion interpersonnelle. Donc sur une journée, on pense qu'on peut y arriver, on travaille par petits groupes. Ça, c'est la première. Donc ça, c'est l'approche pédagogique, remettre le jeune au centre. Et ensuite, on va être sur une approche inductive, c'est-à-dire qu'on va mettre les jeunes dans une situation de manière ludique, de manière très concrète. Et ils découvriront des valeurs, ils découvriront des... Et on va essayer de leur donner quelques outils qui devraient leur servir comme citoyens plus tard. Voilà, c'est notre approche. Également un volet au contact des armées, systématiquement. Même s'il y a des déserts militaires, donc c'est compliqué dans certaines zones. Mais on veut renforcer l'immersion dans une caserne, dans un quartier militaire, ou sur une base, et renforcer la partie présentation matérielle et contact avec ceux qui vivent la carrière militaire sur le terrain concrètement.
Est-ce que vous avez peut-être déjà des retours de ces stagiaires et de ces jeunes qui ont participé aux Journées de la Défense? Est-ce que ça a suscité en eux une vocation?
Aujourd'hui, on va dire le retour, puisqu'on pose la question aux jeunes à la fin, est-ce que vous avez envie de rester en contact avec nous? Est-ce que des métiers militaires vous intéressent? On a en moyenne 20% d'une classe d'âge qui est intéressée, ce qui est déjà beaucoup, dans des conditions dont je vous ai dit qu'il faut qu'on les améliore, qui sont l'héritage de l'histoire, mais sur lesquels il faut qu'on réinvestisse aujourd'hui, clairement, pour moderniser cette journée. Mais moi, je pense que 20%, c'est insuffisant. Je ne veux pas dire qu'évidemment, toute une classe d'âge n'a pas vocation à rejoindre la défense. Mais nous, l'idée, donc, c'est qu'on arrive à mieux séduire les jeunes et qu'ils se disent, non seulement à 17 ans, ça peut m'intéresser, mais à 25 ans, ça m'intéresse. Et donc, ils aient aussi les outils pour nous recontacter et nous pour les contacter. Donc notre idée, c'est aussi de créer un lien numérique, en fait, obligatoire, comme ça se fait dans l'éducation nationale, comme ça se fait pour les gens qui payent des impôts, comme ça se fait au niveau de la santé, hein, tout le monde a un numéro. Et ce lien numérique, à travers des sites extrêmement dynamiques, nous permettrait, nous, de communiquer avec les jeunes, et les jeunes de communiquer avec nous de manière plus simple.
Alors, vous nous avez parlé de la JDC, mais la DSNJ, ce n'est pas que ça. Il y a aussi d'autres initiatives. Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu là-dessus et nous expliquer un petit peu quelles sont, justement, ces autres initiatives qui existent dans votre service?
Alors, les autres dispositifs, c'est tous les dispositifs dont j'ai un tout petit peu parlé déjà sur des politiques de jeunesse. Vous avez les classes de défense. Alors ça, c'est dans le cadre de l'éducation nationale, où des professeurs se montrent volontaires pour animer sur une année une classe à thématique défense, avec des projets pédagogiques autour de la défense. Mais on va dire qu'on touche les jeunes plutôt de 3e et de 2e. Ensuite, vous avez tous les dispositifs des préparations militaires qui existent dans les 3 armées, où des jeunes, pour une semaine par exemple, pour une préparation militaire découverte, s'inscrivent dans un régiment des forces pour l'armée de terre ou sur une base aérienne, avec les escadrilles Air Jeunesse, ou au sein de la Marine nationale avec les préparations militaires marines, sur une semaine ou au-delà, et en fait se forment, se retrouvent, et généralement ce genre de préparation on permet soit de rejoindre à titre professionnel la Défense, soit de rejoindre comme réserviste. On a les dispositifs aussi des cadets de la Défense, un peu plus jeunes, ou des jeunes. C'est un peu une forme de préparation militaire, mais sous une autre appellation et un peu plus jeune. Ils sont organisés également animés par les armées. Vous avez toute une série de rallyes citoyens. Vous avez les cordées de la réussite que j'ai évoquées. Et encore une fois, vous avez les stages, l'apprentissage. Enfin, il y a une pléthore, en fait, d'offres. Et puis, les offres les plus, finalement, dans la concrétisation la plus durable, c'est autour, soit, bien sûr, de « je m'engage à titre professionnel » ou autour de la réserve, sur lequel il y a un énorme effort actuellement de recrutement.
Toutes ces initiatives, vous l'avez dit, ont donc pour but de favoriser l'engagement. Quelle évolution pourrait-on voir survenir dans les, disons, 5 prochaines années? Quels vont être les axes d'amélioration du service?
On est vraiment sur l'effort sur la journée défense citoyenneté. Et, on va dire, on a toujours en point de mire la journée défense mémoire dans le cadre d'un SNU, si ce SNU devait être généralisé et rendu obligatoire. Pour l'instant, il y a l'intention qui est exprimée par le président de la République, mais ce n'est pas concrétisé. En tout cas, lui réfléchit à la question. Donc ça, c'est le premier sujet, qui est un sujet extrêmement lourd. Le deuxième sujet, quelle que soit l'option qui sera prise sur l'avenir du SNU, c'est la question du recensement. Le recensement, elle est aujourd'hui à 16 ans, il va falloir qu'on l'avance probablement de quelques mois, puisque vous savez que le permis aujourd'hui est possible à 17 ans. Le recensement est obligatoire et qu'ensuite, pour avoir le permis, pour passer le permis, enfin l'avoir en tout cas, il faut avoir fait la JDC ou la JDM et avoir bien sûr été recensé. Et on veut se servir aussi du recensement comme le premier moment où on va échanger avec les jeunes, non seulement pour une inscription numérique, mais également peut-être leur fournir des documents, le solenniser un tout petit peu plus. Parce qu'il ne faut pas jamais oublier qu'il y a deux seuls moments obligatoires pour un citoyen. Les seuls moments obligatoires, c'est le recensement et la JDC. Il n'y a aucun autre... Il n'y a aucune autre obligation. Et puis, payer ses impôts, pour ceux qui payent les impôts. Enfin, c'est tout. Donc, c'est des moments forts qu'on doit resolaniser et qu'on doit valoriser. Et puis, sur la question de toutes les politiques jeunesse qu'on a évoquées, il faudra bien, Journée Défense Mémoire et le SNU se développaient encore plus, vous remarquez que c'est désormais à 16 ans. C'est en seconde. Or, entre 16 ans et 18 ans, on va avoir un écart important, un moment où on risque de perdre le lien avec les jeunes. Or, aujourd'hui, la journée défense et citoyenneté, c'est à 17 ans et 3 mois en moyenne. Donc, quand quelqu'un veut s'engager, vous n'avez que 6-7 mois. Donc, vous avez un lien direct possible entre la JDC et l'engagement. Si c'est à 16 ans, 2 ans, c'est énorme. On risque de perdre le contact. Donc, il faudra imaginer probablement des activités qui puissent mobiliser les volontaires dans l'intervalle entre 16 ans et 20 ans, et 18 ans, pardon, qui ne soit pas forcément, bien sûr, de la réserve. Pour des mineurs, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a en tête.
Si on pouvait justement essayer de pousser un petit peu cette question du lien avec le pourquoi, pourquoi est-ce que l'armée aurait intérêt à garder un lien avec les jeunes?
La France a eu la chance jusqu'à maintenant d'être préservée par la crise du recrutement, contrairement à d'autres pays occidentaux. États-Unis en tête, hein, qui sont sur les chiffres les plus bas cette année, par exemple pour l'armée de terre, l'US Army, le plus bas depuis 1939. Donc c'est pas anodin. Les Britanniques sont en crise depuis de très nombreuses années. Les Allemands sont en crise également en recrutement. Et malheureusement, nous sommes aussi touchés, alors de moindre ampleur que ces pays, mais néanmoins, c'est une alerte pour nous. D'où l'idée de modifier très rapidement la JDC et de créer ce lien numérique pour pouvoir avoir un échange régulier, un contact régulier avec la jeunesse.
J'aime toujours avoir une comparaison internationale, oui. Mais comment est-ce que ça se passe en Allemagne? Quels sont les moyens mis en œuvre pour atteindre la jeunesse?
Alors, l'Allemagne n'a pas de dispositif particulier à part le fait d'être une armée professionnelle qui communique pour recruter. Les modèles assez intéressants aujourd'hui, que l'actualité...
Mais en avant, bien sûr.
Pardon?
Met en avant.
Oui, sont le modèle scandinave. Mm-hmm. D'autant plus facile à redévelopper, c'est-à-dire c'est celui d'une armée mixte finalement, d'une part de conscription, sur un mode très très souple, en tout cas pour les Suédois, plus systématique chez les Finlandais. Et ces dispositifs sont assez intéressants par rapport à l'enjeu de mobilisation. De mobilisation de compétences que l'armée professionnelle ne parvient pas toutes à capter. Ça, à cause de la concurrence sur le marché du travail, hein, concurrence civile. Quand on parle, par exemple, du cyber, mais il n'y a pas que ça, hein, sur les soudeurs, sur certaines fonctions très particulières, c'est compliqué. Parce que aujourd'hui, on est quasiment en plein emploi, en tout cas en France. Et il y a de très fortes sollicitations et des avantages comparatifs plus intéressants parfois côté dans le secteur civil, nonobstant le sens de l'action, nonobstant le fait de vouloir s'engager pour la défense, qui est là très différenciant. Et donc, on peut se retrouver en difficulté par rapport à d'autres acteurs plus puissants que nous, et par rapport à cette concurrence. Et donc, ces pays ont besoin de mobiliser des compétences, ont besoin aussi, notamment pour les Finlandais, de mobiliser des volumes importants de soldats qu'une armée professionnelle, par définition, ne peut pas mobiliser, parce qu'elle est expéditionnaire et sur un format réduit. Donc, ce qui est intéressant dans leur modèle, y compris celui des Suisses, sous un autre aspect, c'est des formes d'engagement assez souples et qui seraient assez complémentaires et répondant à nos besoins particuliers. Voilà, en tout cas, on observe ça avec beaucoup d'intérêt. Bon, vous imaginez bien qu'on est sur des changements de paradigme très très importants, que nous, on n'a pas la menace russe à notre frontière, contrairement aux Finlandais ou aux Suédois dans le Grand Nord scandinave. Mais néanmoins, on voit qu'on a des besoins de mobilisation de compétences. Et qu'on pourrait avoir, si jamais on avait un engagement dur à l'extérieur, un besoin de régénération et de profondeur humaine, en ressources humaines, pour l'armée professionnelle.
Et justement, si on rentre dans les chiffres, tout à l'heure vous parliez de 20% de jeunes qui étaient toujours intéressés par l'armée après. Là, quel serait l'objectif ?
Pour moi, l'objectif, c'est pas de raisonner est-ce que j'ai envie d'être contacté ou pas recontacté. Moi, l'objectif, c'est de séduire tout le monde. Que tout le monde se dise, même s'il n'a pas l'intention à 17 ans ou à 18 ans de faire une carrière militaire, en fait, ça m'a intéressé. J'ai la défense dans mon scope. Je sais que c'est un champ des possibles professionnels. Que ça arrive à 20 ans, que ça arrive à 25 ans, que ça arrive à 30 ans. Et à partir de là, que les gens, un peu comme vous, Johnny Hayden, vous restiez connectés parce que vous vous intéressez au sujet, même si votre carrière va vous envoyer ailleurs. Et là, je pense qu'on créera non seulement un esprit défense durable, mais qu'en plus, on gagnera en fluidité, un peu comme sur le marché du travail, en fluidité dans les échanges, et donc que les jeunes, comme la défense, pourront saisir plus facilement les opportunités.
On comprend bien ce que la défense et l'armée a apporté aux jeunes, et à l'inverse, que pensez-vous que les jeunes pourraient vous apporter ?
Les jeunes... D'ores et déjà, ils nous apportent énormément. Les forces armées sont jeunes par essence et par nécessité. Quand vous voyez, quand vous suivez l'actualité des combats en Ukraine, hein, quand vous suivez l'actualité des combats à Gaza, et puis quand vous avez suivi l'actualité des combats de l'armée française au Sahel, en Centrafrique ou en Afghanistan, ce sont des métiers, bien sûr, qui demandent pour certains, de très très fortes aptitudes intellectuelles, enfin des compétences intellectuelles ou très très spécifiques. Mais pour ceux qui sont au combat, au contact, que ce soit dans un avion de chasse, sur un bateau de guerre ou dans une unité de combat qui a l'ennemi dans les yeux à 300 mètres, il faut des aptitudes physiques et il faut un mental aussi audacieux. Et moi, on sait très bien que les jeunes, ils ont ça au fond d'eux-mêmes. L'enjeu, il se situe clairement là.
Et justement, pour conclure, ces jeunes dont nous parlons depuis le début de ce podcast, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez leur faire passer ?
Oui, alors moi, le message que j'ai l'habitude de transmettre quand je vais voir notamment des JDC, parce que quand je visite, je m'arrête un petit peu, puis après je vais discuter, j'essaie d'aller discuter avec les jeunes. Je leur dis, en fait, vous avez votre destin en main. Et vous avez aussi le destin de la France en main. Vous êtes les forces vives. Vous êtes pas seulement l'avenir, vous êtes le présent. Nous, on a besoin de vous. Enfin, tous les corps de l'État, l'État a besoin de vous, le secteur privé aussi a besoin de vous, mais nous, on a vraiment besoin de vous. On a besoin de votre jeunesse, biologique, physique, votre allant. On a besoin de votre jeunesse d'esprit. On a besoin de votre sens de l'innovation. Et tout est possible dans les armées pour vous. À titre militaire, à titre civil. C'est une micro-société. Et en plus, vous allez servir au sein d'un collectif, mot qu'on entend de moins en moins, et vous allez vous épanouir au sein de ce collectif, et ce collectif va vous permettre d'être vous-même. Et le dernier point que je dirais, c'est croyez en vous. Vous avez tous des talents. Et j'insiste là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui manquent de confiance en eux. Alors, s'ils ont la chance d'avoir une famille très présente, ça peut, voilà, ils passent les difficultés. Il y a beaucoup de jeunes qui ont très peu de références, donc ils manquent de confiance en eux. Or, ce qui compte pour nous, enfin, en tout cas, moi, dans ma vision de la jeunesse, c'est que vous avez tous des talents. Vous avez tous des compétences, ouvertes ou cachées. Des talents ouverts ou cachés. Vous avez tous un potentiel. Et donc, faites-vous confiance. En tout cas, nous, on vous fera confiance. Que vous ayez un diplôme, pas de diplôme. Mais faites-vous confiance. Et on a absolument besoin de vous. Vous êtes l'avenir du pays. Vous êtes nécessaire à sa défense.
Merci mon général pour votre temps, merci Audrey. Chers auditeurs, encore quelques secondes pour ne manquer aucune information sur le futur de Forêt-Claire. Tout d'abord, merci de votre écoute, de votre fidélité à notre podcast. Pour ce qui est du côté DSNJ, le prochain épisode va porter sur la plateforme Première Expérience Défense. On parlera de stages, de cages au sein du ministère des Armées. Cet épisode sera exceptionnellement publié le 15 février et vous pourrez ensuite retrouver un nouvel épisode à chaque premier lundi du mois. Pour ce qui est du contenu habituel de Forêt-Claire, nous nous retrouvons très bientôt le 7 février avec un épisode découverte sur Starter, le club des startups de la filière aéronautique et spatiale française. On découvrira que les startups peuvent effectivement jouer un vrai rôle aux côtés de nos fleurons nationaux. C'est tout pour les informations. Encore une fois, merci de votre fidélité. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, mais aussi à laisser une bonne note et un petit commentaire. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt sur Forêt-Claire.